Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut tout le monde, c'est Capture Mag Hebdo du 28 avril, hein, je me trompe pas, on est encore en avril, j'ai l'habitude de me tromper, et c'est presque la fin du mois, on est bientôt en mai, hein, bientôt les ponts, hein, Stéphane.
Donc t'as failli te tromper, mais en fait c'est bon, tu rattrapes, ouais.
Et il y a eu des sorties cinéma le 26, on va en parler ce soir de La colère d'un homme patient, qui est sorti le 26, et puis il y a des sorties le 3 mai par exemple, avec un film qui s'appelle Jig Robot.
On l'appelle Jig Robot.
Et il y a aussi des sorties en DVD et Blu-ray, avec Au bout du tunnel, qui est chez Koba Film, on va en parler aussi. Voilà, c'est le programme du jour. Qu'en pensez-vous, les amis?
Bah oui, très bien.
Ça m'a l'air très bien.
Ah oui, ça m'a l'air bien.
Alors, on a vu les films cette fois.
Moi, j'ai vu tous les films, c'est incroyable.
Ce soir, on a Yannick Daon. Bonsoir, Yannick.
Salut.
Et on a Stéphane. Et puis, c'est tout. Mais on est bien, et tous
voilà.
Les trois.
Moi, salut, David.
On est. Salut, Stéphane. Et puis, on démarre tout de suite. Allez. On dit un petit mot avant des New Max.
Ah, bah vas-y.
Ouais, juste vite fait pour vous dire que la nuit de l'espace, la nuit des étoiles, est toujours en vente. Donc ça sera début juin, le 10 juin si je me souviens
bien. Ouais, les films.
Et bah, les films, c'est des chefs-d'œuvre, hein, c'est Stargate de Roland Emmerich.
Ok.
Non, après c'est Starship Troopers, ça vaut le coup.
Voilà.
Hein, de l'ami Paul Verhoeven, ça fête ses 20 ans déjà, et ça nous rajeunit pas. Et puis on finira par un autre film qui fête ses 20 ans, qui est Alien 4, puisqu'on s'est dit, comme on avait fait la trilogie Alien et qu'on nous avait réclamé le quatrième, on s'est dit que dans la nuit des étoiles, ça valait le coup de faire un petit encart du côté de la station orbitale sous la houlette de Jean-Pierre Jeunet. Et voilà, puis comme il y a un nouveau Alien qui sort, bah pourquoi pas,
hein. Ça colle avec, quoi.
Ça colle avec, voilà. Donc ça, c'est la nuit des étoiles. Allez sur le site des Nuits au Max ou sur chercher Nuits au Max, vous allez trouver. Et puis je rappelle, je fais encore ma pub vite fait avant de vous laisser la main, mon livre sur Alien, hein, puisqu'on parle d'Alien, alien.bragelonne.fr. Vous avez jusqu'au 19 mai pour l'acheter à 32,90€ au lieu de 39,50€. C'est une bonne affaire, c'est du beau, c'est du bon. Bref. Bon, c'est fini pour ma promo.
Allez.
Passons directement au cinéma. La colère d'un homme, Yannick, tu as envie de chanter ce soir.
Bah ouais, ouais,
tu es joyeux.
Bonne humeur,
ouais. Bon, super. Et ben alors, la colère d'un homme.
Stéphane, la colère d'un homme patient.
D'un homme patient, pardon. Bah oui, parce que s'il n'était pas patient, ça serait
moins drôle.
Tardez
pas la ira.
Voilà. C'est le premier film d'un comédien.
Ouais.
Espagnol qui s'appelle Raúl Arévalo, mm-hmm. Qu'on a vu notamment chez Alex de la Iglesia, et c'est un pur revenge movie, mais alors Yannick est déjà en train de faire mais c'est un pur revenge movie en fait, mm-hmm. qui a des gros accents de film social.
Film psychologique plus que social.
Psychologique, ouais. Mais il y a quand même quelques éléments aussi sociaux, je trouve. Ouais. C'est l'histoire en fait d'un homme qui a attendu,
patient.
Voilà, tout à fait, qui a attendu depuis 8 ans en fait pour se venger des gens qui ont tué en gros sa femme lors d'un braquage qui a mal tourné. Voilà. Que dire sur ce film ? C'est le film qui a eu les Goya cette année. C'est le film qui a gagné le Goya, donc les Oscars espagnols. C'est celui qui a eu le Grand Prix. Ça a été assez divisé parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, lui a eu l'Oscar du meilleur film. C'est Bayona qui a eu l'Oscar d'une meilleure réalisation pour Monster Call, quelques minutes après minuit. Et je crois au meilleur scénario, c'est l'homme au
mille visages. L'homme au mille visages. Meilleure adaptation.
Meilleure adaptation.
Il a eu plusieurs d'ailleurs, Goya, La colère d'un homme patient. Il a pas eu que meilleur film.
Peut-être acteur aussi.
Ouais, il y a eu des acteurs, je pense, dedans. Ouais.
Bah, faut dire que c'est quand même super bien interprété. Hein.
C'est incroyable. Bien, ouais. Les acteurs sont incroyables dans le film. Et
Mais le cinéma espagnol, il y a de bonnes choses hein, quand même. Hein. Il y a
pas chose à dire, qui, hein. qui est importante pour souligner ce que je disais. Bon, c'est un film social, on en parlera, mais ouais. film très psychologique aussi, intéressant dans le sens où c'est un acteur qui a fait ça. C'est un projet qu'il avait depuis une dizaine d'années.
Il le porte en lui. Quoi.
Il le portait vraiment en lui et il avait aussi l'honnêteté entre guillemets de connaître ses limites en tant que scénariste et réalisateur, et surtout pour un petit peu nuancer le côté pur revenge movie qui a un principe de genre avec ses codes et tout ça, c'est que le bonhomme voulait que ce récit de vengeance soit le plus crédible possible psychologiquement, donc il s'est mis en relation avec un psychologue pour comprendre comment le trauma d'un personnage peut lui comment son envie de se venger peut se traduire en termes de différentes étapes psychologiques, et il s'est avéré qu'il s'est super bien entendu avec le psychologue, à tel point qu'il a coécrit
le thérapie.
Il a fait une thérapie sans doute. Il a coécrit le film avec le psychologue. Ils ont mis beaucoup de temps pour le faire, pour le peaufiner. C'est un film qui a été extrêmement difficile à monter d'ailleurs, puisque j'ai cru comprendre que la productrice avait carrément mis en hypothèque genre sa baraque ou un truc comme ça pour
financer
le film.
C'est un film qui a été tourné en 16 mm.
Oui.
Donc en pellicule. Donc c'est quand même assez rare aujourd'hui, pour il faut ouais. quand même le souligner. Mmh. Et du coup, aujourd'hui.
Il a eu le prix Goya du meilleur acteur dans le second rôle et du meilleur acteur. Oh là, il y en a eu plusieurs. Ouais.
Et du coup, en fait, comme la chaîne de production n'existe plus vraiment, et encore moins en Espagne aujourd'hui, dans le cinéma espagnol, pour traiter la pellicule et ce type de pellicule, à plus forte raison, forcément, ça rentre en ligne de compte, quoi. Moi, le souci que j'ai avec le film, on va évacuer cette problématique, c'est que c'est un film qui est sous couvert d'être immédiat, en fait, est tourné constamment à l'épaule. Et t'as des scènes où ça fonctionne. Notamment, t'as une scène d'ouverture en fait qui est d'un point de vue en fait de l'arrière d'une voiture, qui est la voiture du type qui est censé faire partir les braqueurs. C'est vraiment la scène d'ouverture pour te montrer le braquage de l'époque, mais c'est vraiment de ce point de vue-là. Et en gros, la caméra est sur l'arrière de la banquette arrière, et il y a un carambolage, qui fonctionne assez bien. C'est immédiat, ça fonctionne, t'es dans la scène, quoi. Pour le reste du film, je trouve que comme toujours, je trouve avec ce genre de procédé, c'est quand tu l'utilises comme un concept général de mise en scène, t'as plein de moments, en fait, où ça te sort de l'émotion du film, je trouve, qui. Je parlais de film social aussi, et ça, ça nous renvoie à nos années où Yannick et moi partions en vacances en Espagne, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a toute une Espagne qu'on voit pas forcément dans le cinéma espagnol et que les gens en fait qui passent pas forcément l'été en Espagne ne savent pas non plus. C'est que en fait, c'est l'Espagne en fait du sud, des ferias quoi, des terres, quoi, des petites villes et avec beaucoup de fêtes, avec beaucoup de de choses. Et ça, c'est un truc qui est clairement mis en avant dans le film, quoi. C'est l'Espagne rurale en fait, l'Espagne des terres.
Pas l'Espagne rurale, non, pas, je veux dire dans le sens pas paysan, il y a un petit côté périurbain, tu vois, côté ces petites villes déglinguées.
Parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, tout le monde a plus ou moins une maison de campagne ou un truc comme ça, tout le monde a de la famille dans les terres, et du coup, en fait, tout le monde, une grosse partie des gens, en fait, a accès à ces petits villages, parce qu'ils viennent des petits villages, même s'ils habitent dans les grandes villes. Ils y vont régulièrement le week-end, où ils passent des vacances là-bas, et du coup, c'est très territorial, quoi. Et du coup, c'est une Espagne, en fait, socialement, qui moi, je trouve très intéressante, très festive, qui jure un peu avec... justement l'aspect psychologique dur du film, quoi, parce que tu pourrais croire que justement c'est tellement festif que voilà, mais justement en fait qui donne une, je trouve, une dimension en fait très intéressante, parce que
il y a quand même je veux dire, le côté festif, je le relativise aussi, dans le sens où t'as quand même les stigmates d'une crise qui sont évidents. Hein, donc on n'est pas quand même non plus dans un univers super joyeux.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Espagne est un, entre guillemets, ce n'est pas un pays jeune, mais c'est un pays, en fait, qui est sorti il y a 40 ans du franquisme, de la dictature, et qui a retrouvé une joie de fonctionner, une joie de vivre, en fait, qui est aussi imprégnée dans
c'est culturel
dans,
aussi,
voilà, dans sa culture. Donc le truc, c'est que c'est ça qui est très intéressant, en fait, de montrer le décalage entre l'histoire très sombre, très dure, et du personnage, quoi, principal, et pas que lui, hein, il y a le personnage féminin qui est assez touchant aussi, je trouve, qui est qui est bah, la femme d'un des comment dire braqueurs repentis qui dont il veut se venger, quoi. Et ils ont une relation en fait extra-conjugale. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là qui font que ça donne un cachet unique au film, vraiment typiquement espagnol pour le coup. C'est-à-dire fondamentalement, tu prendrais ce film, tu le mets aux États-Unis, ça, c'est plus le même film du tout, quoi. C'est... Même avec la même histoire.
Ah ouais, ouais. Ça, on est d'accord. Il y a quelque chose de spécifiquement espagnol dans le film. Maintenant, moi, je te l'avais déjà dit, ça m'a aussi fait penser un peu tous ces petits thrillers poisseux des années 80, de la fin des années 70 en France. Tu vois, certains Yves Boisset, t'as un petit côté. Mais là, plus sur le contexte que sur les personnages, comme on avait cette France un peu rurale abandonnée, à travers laquelle ils injectaient des codes du genre, et c'était déjà un mix intéressant. D'ailleurs, ça convoquait le Peckinpah des chiens de paille. Et d'ailleurs, c'est une anecdote marrante du tournage, puisque le réalisateur disait que souvent, quand il tournait des plans, et puis il avait cette exigence qui est quand même, je pense, pas consciente à la fois dans l'atmosphère qu'il veut donner, de tourner en 16 mm et retrouver le grain de la pellicule et tout ça, mais en même temps inconsciente dans les références qu'elles impliquaient, puisque son chef-op, à chaque fois qu'il tournait un plan, lui disait « Putain, mais en fait, ça, c'est un plan de Peckinpah, ça, c'est un plan de Peckinpah », et l'autre disait « Mais pas du tout, c'est un plan de Carlos Saura, quoi. » Donc, ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment... qu'il y a vraiment ce mix dans ce film. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est de me dire, ce film-là, je le prendrais sur papier, dans sa structure narrative, l'utilisation des codes du genre, tu pourrais être dans une pure série B, ultra jouissive. On est quand même avec un mec qui va du coup prendre un des types dont il veut se venger, le contraindre à venir avec lui pour lui faire découvrir ses complices, et donc recréer des scènes qu'on avait vues de manière un peu similaire dans Collatéral, je sais pas si tu te rappelles, ouais, où il allait de mec qui devait tuer en mec qui devait tuer, et à chaque fois t'avais une espèce de sympathie qui se crée entre les gens jusqu'à ce que la violence rentre de manière brutale dans la scène. Il y a un peu ce même principe là, et c'est vrai que les petits retournements de situation, les petites choses qui se passent dans le film, Tu le prendrais juste comme un film de genre, ce serait très jouissif, très fun, très ludique.
C'est pas du tout traité comme ça.
Mais c'est pas du tout traité comme ça, et c'est pas du tout traité comme ça, parce que je pense que le côté rapport charnel intense, les rapports de répulsion, attraction des personnages, cette espèce de triangle amoureux un peu craspec qui se fait entre les trois personnages principaux, donne. Non, mais il y a quelque chose de très charnel dans le film, très, ouais, très organique, et en même temps extrêmement psychologique. Donc ça donne plusieurs niveaux au film qui fait que tu peux le regarder comme un film de genre, effectivement, comme un pur revenge movie qui est jouissif par moments.
C'est ce que ça raconte. Hein.
Voilà, c'est ce que ça raconte. Et derrière, avec une vraie profondeur psychologique, et aussi ce temps pris à observer les corps en mouvement, à observer le désir, la frustration, ce qui est quand même étonnant dans le film. On en a parlé sur d'autres films des fois, mais sur là, c'est vraiment ce parcours de personnage. C'est-à-dire ce type qu'on pense être une espèce de type introverti, un peu timide au début, sur lequel on est touché parce qu'on voit qu'il aime bien cette barman, mais il ose pas lui parler, tout ça. Puis on se rend compte de son passif et on se dit, oulala, mais il est traumatisé, il doit être.
Il y a un calcul. Truc,
ouais. Puis finalement, il a une relation avec cette nana, et là, on trouve ça touchant, cette relation improbable qui est en train de se créer jusqu'à ce qu'on ait les premières scènes de vengeance. Et là, c'est d'une froideur, alors que le type est maladroit. Il y a aussi ce traitement de la violence qui est complètement maladroit. C'est difficile de tuer quelqu'un, c'est difficile le passage à l'acte. On sent vraiment que la réflexion sur les différentes étapes d'évolution du bonhomme, la justification d'une vengeance et ce qu'elle signifie, c'est-à-dire que ce type n'existerait pas sans ce désir de vengeance. Il serait mort, il serait déjà littéralement mort. Et du coup, moi, ça m'a fait marrer parce que je regardais un petit peu des critiques sur le film et je voyais beaucoup de gens surpris par le final, qui est effectivement une conclusion qu'un film de genre, non mais sans le dire, mais qu'un film de genre ne ferait pas, un pur film de genre ne ferait pas une conclusion comme celle-là. Ça allait être une conclusion logique psychologiquement par rapport au parcours du personnage. Et si on rentre vraiment dedans et qu'on regarde vraiment tout ce rapport d'identification répulsion qu'on a aussi vis-à-vis de ce personnage qui est extrêmement bien construit, ça devient au final extrêmement logique et presque évident. Et je, voilà, moi j'ai trouvé ça assez puissant. J'ai
ça
pris,
t'a plu manifestement.
Ouais, j'ai pris énormément de plaisir cinématographique pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'était une espèce de mix d'influences qui est assez improbable et qui marche très très bien. Et puis à côté de ça, j'ai trouvé le film intelligent dans sa façon de traiter cette problématique là. Voilà. Donc moi je suis assez.
Il a eu le Goya du meilleur scénario du meilleur jeune réalisateur.
Voilà. Et je trouve que pour un premier film, je trouve ça quand même assez. Je trouve ça super maîtrisé. Donc,
Stéphane, t'es d'accord?
Oui, jusqu'à la pure logique de mise en scène du film que je trouve, encore une fois, le concept, ériger la caméra à l'épaule comme un concept de mise en scène plutôt qu'un élément de mise en scène, c'est un truc qui me pose toujours problème. J'ai du mal avec les films qui sont vraiment faits sur une note d'un point de vue mise en scène pure, quoi. Et du coup, en fait, voilà, c'est je trouve le truc qui me fait pas totalement rentrer dans le film comme Yannick.
Moi, ce qui m'a surpris aussi, et là pour le coup, c'est quand même une rupture de ton en termes de mise en scène, mais la scénographie quand même de la première scène dont t'as parlé tout à l'heure, qui est étonnante, parce que quand on voit
c'est quand même du caméra à l'épaule.
Oui, mais je veux dire, il y a quand même une volonté entre guillemets de prouesse technique qui fait qu'on regarde la scène, on se dit waouh. Et ça, c'est ce qui est marrant quand même, c'est qu'il pose ça. Comme presque un élément de genre, c'est-à-dire t'es dans un braquage qui tourne mal, t'as un procédé de mise en scène qui est galvanisant entre guillemets, et après on casse cette logique-là pour partir dans un autre registre où plus jamais la mise en scène ne recherche entre guillemets la galvanisation. Et j'ai trouvé ça comme une espèce de leurre, quoi. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi, ça m'a surpris. Donc moi c'est rare d'être surpris, mais donc tu vois, quand je suis surpris,
je pense que c'est plus une question de point de vue.
Je crois que
c'est peut-être comme la mort, par exemple, c'est comme le flashback qui n'est pas un flashback puisqu'il est intradiégétique, qui est la mort de sa femme, qui est en fait une vidéo. On ne verra que ça et qui est très très dur en fait quand tu regardes la scène, elle est très violente. Pour moi c'est plus une question de point de vue qu'une question d'ériger un principe de mise en scène et de le changer en fait. C'est vraiment je pense que l'idée c'est on s'est mis derrière la banquette arrière, on est pied au plancher comme si tu regardais Hurt Locker, effectivement, et ça se colle, je trouve, à ce moment-là spécifique, et moins, en fait, pour le reste. Mais bref.
Mais bon. Moi, je trouve que ça reste un très, très bon film.
Il est sorti il y a deux jours. Précipitez-vous au cinéma.
C'est important parce qu'on avait parlé de l'homme aux mille visages aussi. On a quand même là, alors où tout le monde vient même vers nous demander ce qu'on a pensé des Gardiens de la Galaxie ou de Fast and Furious. Donc, franchement, on n'en a plus rien à foutre de dire aux gens, il y a pléthore de petits films étrangers qui sortent en ce moment, on va en parler de certains, et qui méritent vraiment davantage l'intérêt des gens. Et des films comme ça, L'homme aux mille visages, La colère d'un homme patient, mais d'autres trucs comme Jig Robot dont on va parler.
On y arrive.
C'est vraiment, ça fait plaisir, parce que c'est pas souvent qu'on a plusieurs films qui correspondent à nos envies et qui sont surprenants, étonnants et maîtrisés, même avec des petits budgets.
Bon, super. Bon, et on quitte l'Espagne et on va direct en Italie. Et c'est parti. Donc, c'est Yannick qui reprend le flambeau. Donc, on l'appelle Jig Robot, est un film italien.
Voilà, peut-être tu peux faire le background parce que je le connais pas très bien.
Bon, en gros, le background, c'est un film qui est réalisé par Gabriel Menetti, qui est aussi un comédien, il se trouve.
Joue dans le film, c'est un des acteurs.
En tout cas, c'est pas le personnage principal. Alors, c'est un film assez étonnant parce que c'est un film de super-héros. Est-ce qu'on peut vraiment dire, on peut dire ça en fait quelque part.
C'est un film qui utilise tous les codes du film de super-héros.
Voilà.
Et pourtant, c'en est pas vraiment.
Voilà, mais qui est aussi, encore une fois, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, en courant pour éviter de se faire attraper par deux gangsters, tombe dans une... Enfin, voilà, c'est bizarre de raconter ça comme ça, parce que ça fait vraiment trope des années... cliché des années 80, tu vois, ou des années 70 ou 80, tombe, en fait, dans une espèce de...
De
charge toxique, quoi.
Ouais.
Et ressort...
Joker.
Et ressort, et en fait, il passe une sale nuit, quoi. Et en fait, il se rend compte d'un seul coup que ça a développé chez lui une force surhumaine, quoi.
Et qu'il est invincible.
Mais comme c'est un petit gangster, c'est un gangster à la petite semaine, il traîne avec des voyous, dont l'un d'entre eux qui a une fille... un peu attaqué, qui passe son temps à regarder des dessins animés japonais, dont un dessin animé, enfin Jig Robot, quoi, qui est un dessin animé qui existe, hein, pour le coup, qui est en gros, si tu veux, pour l'Italie, c'est le Goldorak, en fait, c'est pour les gens, c'est le film nostalgique, c'est la série nostalgique, animé nostalgique italienne, chez nous c'était Goldorak, chez eux c'est Jig Robot, et en gros, elle elle le mène, en fait, si tu veux, vers l'idée qu'il est un super-héros qui doit accepter cette logique-là. Parce qu'elle voit en lui, en fait, le Gigrobot, en fait, qu'elle regarde en permanence. Et le Gigrobot, en fait, ce qu'elle regarde, elle, on dit qu'elle est folle, mais l'idée, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en gros, en le regardant ça, en fait, elle échappe à son propre quotidien extrêmement...
échappe à ses traumas, surtout, à ses énormes...
Ah, voilà, voilà, donc du coup, en gros, on se retrouve donc avec un film qui, effectivement, part bien des côtés et...
C'est un manga de Gonagai.
Ouais, non mais on se retrouve avec un film qui part bien des côtés une origin story comme par exemple pouvait l'être Incassable, traité sérieusement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui le comparent un peu à Incassable, même si au final ça ressemble pas du tout à Incassable dans la confection quoi. Et ce que moi je trouve intéressant avec ce film, bon nous en France en fait, souvent quand quelqu'un va essayer d'aborder un film comme ça, on dira voilà, on est dans un pays cartésien, ça fait 50 ans qu'on travaille sur la nouvelle vague, donc c'est quand même très compliqué d'essayer de refaire du genre. Non mais je dis ça de manière complètement détachée. Hein. On a évidemment quelques ici et là quelques films de genre qui existaient même dans les années 70 depuis. En Italie. Je vais pas faire l'affront de vous rappeler quand même que c'est le pays d'Argento, c'est le pays de Giallo, c'est le pays de Fumetti, c'est le pays de Michele Soavi. Donc en fait c'est quand même un pays qui est complètement morose en termes de cinéma actuellement, d'accord.
Mais une orientation
marquée quand même. Mais qui a une vraie croyance comme l'Angleterre par certains côtés.
Et l'Espagne.
Doctor Who en Angleterre, ça ne peut pas. Ça existe en Angleterre parce qu'ils ont un passif. Et tu peux refaire renaître un Doctor Who il y a 10 ans, par exemple, comme ils l'ont fait, parce que en gros, si tu veux, il y a ce passif de science-fiction, d'appréciation de la science-fiction qui existe depuis toujours, quoi. Donc. On pourrait croire, parce que c'est un film à deux patates, hein, c'est encore un film à 2 millions, Gigrobot, on pourrait croire que c'est faisable en France, mais fondamentalement, en fait, pour arriver à digérer toutes ces influences-là et les remettre dans un film relativement cohérent, quand même, où t'as le gangster à l'italienne, t'as, la misère sociale qui est quand même très prégnante, on parle de la France, mais l'Italie, c'est carrément la corruption que tu vois dans les rues de Rome, quoi, littéralement, en fait, quand tu te balades à Rome, tu vois littéralement les hôpitaux dont l'argent a été détourné, qui seront jamais terminés parce que les politiciens les ont pris, tu vois le gangsterisme, tu vois tous ces trucs-là. Il n'y a pas que le joli centre avec des ruines, quoi. Donc, du coup, en fait, y a, tout ça s'est montré dans le film. Et il y a cette compréhension du genre, en fait. Cette idée de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout des idées, même les plus absurdes et les plus ridicules. Traiter ça avec humour, en plus. Il y a, des scènes... moi, je pense la scène où, justement, le gang adverse, où t'as un mec qui ressemble un peu... le super vilain du film, on va dire, c'est un simili Joker.
Qui est hystérique, qui est complètement hystérique.
Qui baisse des travelots.
Mais il y a tout ce côté, comme tu dis, très typique du cinéma italien, avec très coloré, très excessif, très hystérique par moments, tout en étant dans un univers craspec, misérable.
Et il y a cette scène où ils vont pour attaquer un fourgon et que lui arrive au milieu, et du coup, tout ça, c'est traité de manière assez comique. Donc il y a un côté tragicomique, est-ce qu'on pourrait vraiment dire ça. Il y a un côté comme ça, parce que ça traite, encore une fois, ça reste quand même assez violent, ça reste assez grave par certains côtés. Par exemple, on parle des traumas de la jeune femme, mais bon, c'est quand même une personne qui a été violée dans son enfance, etc. Enfin, voilà, donc en fait, ça traite tous ces thèmes-là, et plus ça avance...
Voilà, mais c'est ça, parce que moi, sur lequel je voulais rebondir, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'évolution du film, quand tu le regardes. Et alors, moi, ma référence, ça m'a fait penser à un truc assez dingue, et pourtant qui n'a rien à voir, c'est District 9. C'est-à-dire que ça m'a amené, émotionnellement, comme District 9 m'a amené de son point A vers son point B. C'est-à-dire une évolution du personnage que je trouvais extrêmement bien maîtrisé, et qui là, je ne m'y attendais pas, m'a extrêmement surpris. C'est-à-dire que si tu veux... comme le dit Steph, c'est un côté tragicomique, un côté excessif sur les choses. On est dans une surréalité, hein. On n'est pas dans l'Italie d'aujourd'hui. Tout de suite, t'es dans.
Bien sûr, mais il y a des bases.
Oui, bien sûr. Il y a le contexte, mais je veux dire, toute la narration, les personnages, leur existence, on est tout de suite dans un univers, l'univers du bonhomme. Bon. Un univers qui, moi, me pose problème, en tout cas, m'a posé problème pendant une bonne moitié du film. D'abord, parce que très honnêtement, je m'y suis un peu ennuyé, parce que ce que posait le personnage au départ, j'avais l'impression de le comprendre très très vite, et j'avais l'impression qu'on allait être dans ce registre un peu guignolesque du je fais du décalé pour faire du décalé, je fais du délire pour faire du délire, avec des choses qui marchent super bien dedans. Le type, la première chose qui comprend quand il a son pouvoir, la première chose qu'il se dit quand il a son pouvoir, parce qu'il bouge pas de chez lui, il parle pas, la seule chose qu'il fait c'est bouffer des yaourts
et en regardant du porno.
Et regarder du porno. Donc il a des pouvoirs, il se dit je vais aller prendre un distributeur de thunes, il l'arrache du mur, et il y a ce côté absurde qui est rigolo dans le truc, et juste après il va s'acheter juste une plus grosse télé et plus de yaourts pour regarder les pornos. Donc il y a des choses qui marchent, qui sont malignes, qui sont marrantes. C'est... Et faut pas croire que cet élément-là en ferait une sorte de Hancock revisité à la sauce italienne, parce que ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, la première moitié du film, moi, m'a donné ce sentiment-là que ça allait tourner à vide. Je me suis dit, tiens, ok. Et puis le fait que aujourd'hui, même quand tu veux faire un film différent, j'ai l'impression que beaucoup passent par le prisme super-héros, et très honnêtement, personnellement, ça me gave le Superman. J'ai l'impression que les gods ont été détournés 1000 fois, décalqués 1000 fois, contournés 1000 fois, et que c'est un sujet qui arrive à bout, quoi. J'ai envie qu'on parle d'autre chose que de super-héros. Et là où j'ai été extrêmement surpris, c'est que le film bascule. Pour moi, il bascule vraiment. Il bascule par rapport à la relation avec cette fille qui a l'air un peu folle au départ, qui est magnifiquement jouée par l'actrice, parce que c'est chaud de jouer un perso de folle qui soit jamais caricatural, qui marche, qui sait être émouvant par moments.
T'as pas envie de tarter. Hein.
T'as pas envie de tarter, qui est d'une justesse absolue. C'est étonnant. Et plus le film avance, plus cette nana...
Lienia Pastorelli.
Voilà. Et cette nana, avec sa folie, avec ses mots à elle, avec son fantasme, si tu veux, qui est une illusion pour elle-même du dessin animé, va malgré tout dire au type, mais attends, si t'as des pouvoirs, tu vas avoir de grandes responsabilités. Donc c'est l'idée, c'est ce que tu dois faire, c'est pour l'humanité, c'est pas pour ta gueule, il faut faire quelque chose. Et donc du coup, on comprend qu'on va basculer dans un univers où cet homme va changer grâce à cette fille, mais où du coup, les codes du genre ne servent plus à jouer l'intrigue du personnage qui découvre qu'il est un super-héros et qui va utiliser les pouvoirs, les codes vont devenir des sortes de sconcions, si tu veux, des articulations du parcours psychologique du personnage et de la relation avec la nana. Et c'est là que c'est super fort. C'est-à-dire que le code n'est pas là pour s'amuser, détourner, dynamiter, jouer le code du super-héros. Le code du super-héros revient à la fonction fondamentale qu'il avait de psychologique, de déterminer par rapport au personnage. Mais malgré tout, on a l'impression que ça glisse au bout d'un moment, qu'on quitte le film de super-héros, qu'on est dans l'histoire amoureuse, qu'on est dans le parcours perso, et il revient toujours sur des éléments typiques de tous les films de super-héros, et quand il les amène, la référence qu'il amène, je pense au masque à la fin, je pense à la posture qu'il a en regardant la ville, d'une intelligence, d'une justesse par rapport au parcours du personnage, ce vers quoi il veut nous amener, que moi, littéralement, la deuxième partie m'a bluffé. Mais bluffé aussi même, j'ai envie de te dire, purement techniquement, où autant je me disais, oui, c'est un film à 2 millions au début, autant sur la fin, je te dis, ah, putain, mais les 2 millions, il les a gérés magnifiquement, ouais, le mec.
Même si les effets spéciaux sont pas forcément...
non, ils sont pas ouf.
C'est des effets spéciaux de série télé, on va dire.
Oui, mais t'as des idées de malade, il a de la figuration, il est dans des lieux publics, enfin, des choses compliquées à faire en tournage. Et moi j'ai pris une petite claque, hein, vraiment.
Bah, et vous êtes pas, tu n'es pas le seul. Non, il a convaincu au niveau de ses récompenses. On parlait des Goya pour l'Espagne et les David di Donatello qui sont les Césars italiens. Il a eu le David. J'aime bien ce nom-là. le David du meilleur réalisateur débutant, lui aussi. Il a eu le David du meilleur producteur, le David du meilleur acteur pour Claudio Santamaria, le David de la meilleure actrice pour Lienia Pastorelli, qui t'a bien plu, le David du meilleur second rôle et le David du meilleur second rôle féminin. Donc vraiment, ils en ont raflé pas mal. Et du meilleur monteur aussi. Et puis, il a reçu des distinctions à l'international, parce que le film a 2 ans. Il est sorti en 2015, début de 2015 en Italie. Il ne sort que maintenant chez nous, le 3 mai. Et il a eu un prix à Gérard May, un prix dans d'autres festivals fantastiques. Bref, c'est un c'est un film qui a conquis son public.
Et puis, hein. Puis j'insiste juste sur un truc, hein, après j'arrêterai de parler, mais il y a une maîtrise des codes chez ce mec qui n'est pas la maîtrise des codes que je veux dire juste c'est-à-dire c'est la maîtrise de ce que ça signifie. C'est plus que simplement je sais utiliser les codes d'un film de super-héros, c'est que je les transcende, je dépasse pour aller vers autre chose.
Il faut aussi quand même signaler, parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario.
Oui, peut-être. Ou le son scénariste, alors.
Voilà, non, mais en tout cas, il faut le signaler qu'il y a un auteur de Fumetti derrière, en fait. Mmh. Le Fumetti, c'est quoi? C'est la BD italienne, de genre, en fait, comme le roman de gare ou les trucs comme ça. En fait, c'était vraiment un truc que tu vas acheter et tu vas lire dans le train. Et en gros, c'est les trucs les plus connus chez nous, chez les amateurs de cinéma de genre en tout cas.
Delia Moret, tout ça.
C'est Dylan Dog, ouais. Diabolique. C'est quand même un truc qui existe depuis encore une fois très très longtemps en Italie. Et le truc, c'est que c'est pas étonnant que ce type-là connaisse ces codes-là si tu veux et les réintègre. Moi, je terminerai juste sur le film pour dire que. À toute proportion gardée, parce que bon, j'ai un amour immodéré pour Sam Raimi. Mm-hmm. Toute proportion gardée. Là où j'ai apprécié en fait le film, c'est aussi dans sa façon de vraiment. Quand je parle de tragicomique, c'est ça en fait. C'est vraiment de jouer avec les changements de ton et de créer des séquences en fait qui sont vraiment fun.
Et d'autres vraiment bouleversantes.
Et d'autres qui sont vraiment bouleversantes parce que bon, mine de rien, le personnage de cette fille,
Darkman,
c'est quand même assez. Voilà. Non, mais il y a. Alors, c'est pas aussi fou évidemment que ça. Et puis il a pas le budget. Et puis il a pas le c'est pas Sam Raimi tout simplement. Mais le truc, c'est que. J'insiste, hein, toute proportion gardée, quoi. Il y a une vraie manière de gérer les changements de ton, là, quand le super vilain sort de son truc et qu'il va chercher les types qui l'ont plongé là-dedans et qui se met à se filmer avec son téléphone portable en train de les défoncer. Ouais. La scène, elle est super fun, quoi.
Ouais, super
je veux
fun.
Dire, elle fonctionne super bien, alors que justement, le personnage pourrait, pour le coup, être hyper irritant. Mmh. Pareil,
T'as pas remarqué le méchant, t'as toujours, au détour de son hystérie, il a toujours une phrase qui fait sens sur son histoire et tout ça et qui lui donne une raison d'être et où tout d'un coup tu dis je peux pas le regarder comme une caricature alors qu'il a tout pour être caricatural. C'est assez fort.
Et c'est un film qui aurait pu être tout simplement irrévérencieux pour être irrévérencieux en fait. Moi je vais te donner un exemple, mais c'est un film que j'aime beaucoup, hein, donc vous allez peut-être pas me suivre sur ce coup-là, mais moi je trouve que pour ce que ça veut être, c'est parfait. C'est le Doberman de Yann Kounen. Ça pourrait être irrévérencieux pour être irrévérencieux comme c'est le cas du film de Kounen, encore une fois, que j'aime beaucoup. Donc c'est une qualité chez moi, mais non, il y a aussi une logique émotionnelle derrière qui fonctionne, et qui rend le film très attachant, très touchant. Exactement. Et et qui fait sens quoi dans les trucs que ça raconte. Le plan final, il est incroyable.
Et c'est ça que je voulais dire quand je le comparais au Neil Blomkamp. Et Dieu sait, je vais dire pareil, que moi j'ai détesté tous les autres films de Neil Blomkamp, mais dans District 9, il y avait cette dimension-là où le parcours du personnage partait de quelque chose d'entre guillemets ludique et nous amenait vers quelque chose d'émotionnel, d'étonnant. Et moi, ça m'a fait le même effet, ce film-là, sur un autre sujet, avec d'autres moyens, mais c'est vraiment très intéressant.
Donc, on l'appelle Jig Robot.
Ouais. Ouais.
Ça, le 3 mai.
Exactement. Et ça m'a.
Il faut aller le voir.
Oui, ça m'a bien donné envie de le voir. Ça, c'est clair. Et on voit le bout de cette émission avec la dernière partie qu'on va consacrer au bout du tunnel avec Yannick.
Ah, le final del tunnel.
Alors moi, j'ai pas vu.
Ouais, toi, tu l'as pas vu. Donc moi,
film argentin.
Film réalisé par un argentin avec des acteurs argentins, mais quasiment 50-50 en termes de budget financé par l'Espagne. Donc c'est pas un film 100% argentin. Le seul référent que je peux donner aux gens, c'est que les producteurs du film sont ceux qui avaient fait l'excellent Dans ses yeux. À côté de ça, le réalisateur Rodrigo Grande a fait plusieurs films avant, mais c'est des films que je n'ai pas vus, donc
je suis même pas sûr qu'ils sont sortis en France.
Je pense pas qu'ils soient sortis tous en France. Il en a fait deux apparemment assez connus, en tout cas en Argentine, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, bon, peu importe. Ce type là est aussi scénariste du film. Alors moi, je voulais en parler parce que c'est typiquement le genre de petit inédit Blu-ray qu'on aime découvrir parmi un océan de bousasses. Et c'est un tout petit film pour
vous avez parlé que des bonnes choses ce soir.
Bah, ça fait plaisir. C'est un petit film pareil qui a coûté 2 millions. Pour le coup, ça se voit que ça a coûté 2 millions. Mais ça n'est jamais gênant parce que c'est hyper malin. En termes d'écriture, plus à la limite qu'en termes de mise en scène, c'est un film très emmerdant à discuter parce que c'est un
c'est bourré de spoilers,
c'est bourré de twists, c'est bourré de retournements de situation. Donc je vais pas pouvoir donner les exemples de tout ce que je dis ou en tout cas aller aussi loin que je voudrais. C'est un film qui, mais vraiment, faut le voir en n'ayant rien lu dessus, ne rien savoir parce que ça t'amène dans une direction que moi j'imaginais pas du tout et je le trouvais le film. Plus il avançait, plus il était jouissif. Et il était jouissif pas tellement pour les twists, qui sont certains surprenants, certains téléphonés, mais peu importe. Parce
on peut quand même donner le point de départ.
Oui, alors voilà, je vais donner le point de départ, parce qu'il a, aussi un petit côté racole, le film, qui n'est pas pour me déplaire, mais qui pourrait énerver certaines personnes. Mais le postulat, il est ouais, tout con.
Tant que c'est pas les Gardiens de la Galaxie.
Ouais, non, c'est clair. Le postulat, il est tout con. On a d'ailleurs qu'un seul, si je ne m'abuse, quasiment qu'un seul plan d'extérieur dans le film. C'est une espèce de très beau travelling élégant au tout début, où on voit une banque dans un coin de rue, puis la caméra s'écarte et on rentre dans un appartement qui est là. Et c'est déjà très bien fait parce qu'avec cette espèce de petit plan séquence très élégant, le mec pose la scénographie de son film, c'est-à-dire que
tunnel, quoi, du fameux tunnel,
non, pas le tunnel, pas le tunnel, d'une maison, mais qui va avoir une super importance, parce que le type au final a très peu de pièces dans son film, et la façon dont jamais on ne ressent le fait que c'est toujours les deux trois mêmes pièces prouve bien qu'il a super bien malgré tout pensé sa mise en scène. C'est pas une mise en scène ostentatoire hormis ce début là, mais elle est très bien pensée. Et donc on débarque dans un appartement où on découvre un mec, alors c'est la loose intégrale hein, si tu veux, il est paraplégique, il fume clope sur clope, il a perdu sa femme et sa gosse et son chien est en train de crever. Bon, on voit ce truc là, peu de temps après, une espèce de bombasse absolue débarque à la porte, donc c'est là que je te dis ça y va un peu sur la racole, mais bon, une espèce de bombe absolue, et que sa fille débarque et on comprend qu'elle est un peu dans la merde, et lui ne veut pas trop lui louer la chambre, parce que bon, on comprendra que sa femme, sa fille, ça lui renvoie des choses. Malgré tout, il se fait meuler et elle rentre à l'intérieur. Bon, se tisse une espèce de relation, la dragouille arrive très rapidement, il y a même une espèce de scène de montage totalement hallucinante qui, moi, m'interpelle encore en termes de mise en scène et de montage. Il y a des trucs que j'adore dedans et des trucs que je comprends pas du tout. Je me dis, il est fou d'avoir fait ça. Mais peu importe. Et donc, l'intrigue commence véritablement quand ce type, qui est accessoirement ingénieur informatique, va dans sa cave avec une espèce de petit ascenseur électrique qui aura son importance plus tard, bien évidemment. Il rentre dans la cave, il va travailler comme d'habitude et il commence à entendre des bruits dans la maison d'à côté, la maison attenante. La cave de la maison attenante. Et puis très vite, il va se rendre compte en fait qu'il y a une bande de braqueurs qui sont en train de construire un tunnel qui va grosso modo passer sous sa maison pour aller braquer la banque qui est au bout de la rue. Et alors là, le mec casse un peu toutes tes attentes. Enfin, tu sais qu'il a des dettes, et donc le type se dit, c'est quand même génial, t'as de l'empathie pour un paraplégique, tu le vois face à la nana, magnifique, et tu dis, bon, mais il va jamais la baiser. Et puis, donc, tu dis, c'est un gentil.
Empathie, ça.
C'est mon empathie.
Il va jamais la baiser.
Il voit les braqueurs, il se dit, et là, le mec, il se dit, mais je vais leur piquer de la thunasse. Ça passe dessus, je vais trouver un moyen de piquer la thune. Bon, en réalité, tout ça, c'est un prétexte à deux choses que moi j'ai trouvé assez jouissive. C'est d'abord, on sent que le type s'est dit, qu'est-ce que je peux créer comme situation avec un mec en chaise roulante qui soit stress au possible. Et donc l'idée du mec qui construit des tunnels avec ce type qui se dit je vais juste, tu vois, creuser un trou et piquer l'argent qui va circuler, mais en fait très rapidement il va être obligé d'aller dans le tunnel, de faire des choses dans le tunnel avec tout ce que tu peux imaginer de suspense, avec les gangsters qui sont en train d'arriver, tout ça. Le mec crée des situations avec son environnement qui est complètement génial. Mais au-delà de ça, la grande force du film, c'est qu'il pose énormément de petits éléments Alors là, je peux rien dire et ça me fait chier parce que mais ça spoilerait tout le film. Donc je peux pas dire. Mais des détails, c'est-à-dire que des fois tu regardes des scènes, tu dis bon pourquoi, puis t'oublies et puis t'y penses pas. Et en fait c'est un jeu d'échecs qui fait le bonhomme. Chaque personnage qu'il met, chaque élément de détail qu'il met, chaque petit objet qui est utilisé à un moment donné, le truc électrique, il va jouer avec tout dans son histoire, jusqu'à un final que moi j'ai trouvé jouissif au possible, je raconterai pas, mais où vraiment le truc qui débarque dans le final pour régler le problème, c'est vraiment le détail que moi j'avais pas vu venir du tout, mais j'avais pas imaginé qu'il allait utiliser ce détail qu'il avait posé en amont pour faire ça. Donc j'ai été systématiquement surpris, mais agréablement, par la façon dont il crée tout ça. Tu vas me dire, ça c'est extrêmement ludique. On fait un petit thriller malin, bourré de petits twists avec des idées marrantes. Mais là où il fait un truc génial, c'est que, je trouve, c'est que malgré la caricature du concept, si tu veux, tout peut apparaître un peu lourdingue, le fait qu'il soit too much dans la souffrance au début, que la nana qui arrive avec sa fille, tu te dis, bon, voilà, ça répond à son trauma, c'est un peu lourdingue et tout ce que tu veux. Mais jamais tu précipites ce qu'il y a dessous. La nana arrive avec une gamine. Cette gamine, elle est muette. Elle essaye de s'approcher du chien. Lui dit, oula, il déteste les étrangers, t'approches pas du chien. Le chien, il est en train de crever, il arrive même pas à se lever. Et il va arriver à te créer une émotion incroyable sur la relation que va tisser cette gamine par rapport au chien. Sur le fait qu'évidemment, cette gamine va devenir un enjeu à un moment donné par rapport au gangster. Sur la femme aussi, dont tu ne présupposes pas certaines choses. Enfin, la façon dont il a d'utiliser son intrigue, mais pas simplement sur des petits détails qu'il a mis avant, mais sur la psychologie de ses personnages. Et alors là, tu pourrais te dire, je suis dans un film ludique, un thriller sympa, fun. Putain, quand ressortent les traumas des persos, c'est à la coréenne, quoi. C'est j'y vais à fond les bananes sur des trucs, mais hardcore. Et t'es là, tu fais, ah ouais, quand même. Et il se sert de ça pour créer derrière une construction héroïque des personnages, si tu veux, dans leur tentative de survie, et pour créer des rebondissements narratifs. Donc en réalité, et là je peux pas donner des détails, c'est chiant, parce que j'ai fini le film en me disant putain de leçon d'écriture, parce que je me suis dit le mec il a structuré son truc. Alors évidemment il est en huis clos, il a plein de personnages, donc forcément tu vois venir certains trucs parce qu'il peut pas jouer avec 50 éléments non plus, mais malgré tout c'est parfaitement structuré, c'est très très bien amené. Il y a quelques absurdités de mise en scène, je trouve, par moment, de trucs qui m'ont un peu choqué, mais j'ai été bluffé assez régulièrement et je m'attendais pas à ce que le film aille jusqu'où il va. Même s'il est bourré d'influence et bourré d'emprunt au cinéma américain, tu sens vraiment le film argentin, entre guillemets, fait pour être commercial, pour faire son petit effet. Mais c'est jamais fait avec cynisme, c'est jamais fait avec malhonnêteté, et puis il va jusqu'au bout de ses persos, il traite super bien ses persos en même temps qu'il s'amuse avec son intrigue. Donc c'est vraiment une bonne petite
surprise. Il va jusqu'au bout du tunnel.
Il va jusqu'au bout du tunnel, vraiment.
Waouh.
C'était puissant. Et voilà, donc ce que je veux dire simplement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est vraiment le genre de petite série B qu'on aimerait voir carrément plus souvent en direct ou DVD. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vous intime de le découvrir. Vous avez passé un super moment et vous allez même stresser grave. Hein,
parce et que il moi, est sorti. Vous pouvez le commander. Il est chez nos amis. Et il est à 19,90€ en Blu-ray et un peu moins cher
non,
en
mais
DVD.
Mais tes amis, ils te vendent des films.
Les amis,
les donne,
15€ en DVD et 19,90€ en Blu-ray.
Sans privé. Non, vraiment, c'est le genre de surprises qui sont agréables.
Bout du tunnel, Rodrigo Grande, c'est sorti le 26.
C'est sorti le 26, exactement.
Sorti le 12.
Regarde voilà. Le Blu-ray, il a l'air d'y avoir que le Blu-ray. Donc, ouais. Parce que souvent, ils donnent le Blu-ray plus le DVD, mais là, c'est pas le cas.
Voilà.
Très bien, super.
Tu téléchargez pas, de toute façon, il n'y a pas de sous-titres français. Voilà.
Il a cherché.
Il a cherché, il a pas trouvé. Non, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Ok. Non, bon, on leur a fait de la pub quand même, parce que là, faut avouer que Yannick, il est très, très, très enthousiaste sur ce film.
Il est bien vendu, moi, je vais le regarder du coup.
Non, mais c'est pas. Attention, hein, oui, parce que moi, hein,
non, mais c'est
vous me connaissez, j'ai une grande gueule. Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, ne vous attendez pas à Citizen Kane non plus, mais vous allez passer un bon
moment. Il a une grande gueule, mais par contre, là, il a faim et il est en train de manger les chips de Stéphane.
Ouais, si monsieur, il peut y aller, hein.
Stéphane, merci.
Merci,
on se retrouve
David.
La semaine prochaine. Ouais. Yannick, merci. On se retrouve peut-être la semaine prochaine.
Peut-être, je sais pas ce qu'il y aura, mais peut-être.
Pour parler toujours cinéma avec tout Capture Mag. C'est ce qu'on retrouve sur capturemag.net et puis sur les réseaux sociaux, @capturelemag sur Twitter par exemple. Puis Stéphane et Yannick, Vous pouvez les retrouver un peu partout d'ailleurs, ils traînent sur les salles de cinéma.
Ouais. J'ai un peu grillé ma prochaine émission vu qu'on a parlé de deux films sur trois de ce que je fais.
Ah bah ça sera peut-être sorti déjà là, tu vois.
C'est pas grave.
Ouais.
Très bien.
Voilà.
Bon ben on vous embrasse et puis
iTunes 5 étoiles.
Et oui,
faut toujours le dire.
Continuez à
mettez des mots doux.
Et mettez-nous des commentaires sur iTunes, ça nous fait remonter dans les tops.
Exactement.
Voilà. Je m'excuse pour les chips parce qu'on m'a critiqué la semaine dernière.
Mais non, mais
on entendait trop les chips et je pensais qu'on les entendait pas, moi, tu vois.
Quel est l'ordure qui a dit ça?
Moi, ils sont pleins à me suivre et me critiquer, tu vois.
Bravo quoi.
Allez, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt.
Salut.
Salut.